Bienvenue chez Malo, avec Jeannick Anctil et ses invités.
Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue chez Malo, c'est le cas de le dire, pour ce deuxième épisode. Très content de vous retrouver encore une fois. Merci d'avoir été aussi nombreux lors du premier épisode qui était cette fois-là en direct. Au moment où vous allez voir ceci, bien, ça a déjà été tourné. Nous amorçons la sixième semaine de confinement et mes invités du jour ont plusieurs choses en commun. D'abord, j'ai eu le privilège de croiser leur route alors qu'ils ont suivi ici chez Communication Jean Malo une formation sur l'art de prendre la parole en public il y a déjà quelques années. Mais ce qu'ils ont en commun par-dessus tout, c'est qu'ils consacrent leur vie au hockey. Qu'ils soient entraîneurs ou joueurs, ben, c'est le cœur de leur vie. Et j'avais le goût de les recevoir aujourd'hui pour savoir comment ça se passe actuellement alors qu'on amorce cette sixième semaine de confinement. On fait quoi quand on ne peut pas vivre notre passion? Alors, je vous les présente, je les intègre tout de suite, en espérant qu'on va les voir, j'essaie de le programmer pour qu'on voit tout le monde en même temps. Je vais y aller par du plus vieux au plus jeune, on va le dire comme ça va trahir un peu votre âge. J'accueille tout d'abord l'entraîneur Jude Vallée et je vous le présente, un CV très chargé, gaspésien d'origine, diplômé à l'Université de Sherbrooke en enseignement, en éducation physique et à la santé. Il est entraîneur depuis très longtemps et lorsque je l'ai rencontré, j'ai compris pourquoi. Il a été derrière le banc des cantonniers de Magog dans la Ligue d'hockey Midget 3A du Québec. Il a également sévi avec les Cougars du Collège Champlain au collégial. Dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, deux passages, d'abord avec les Tigres de Victoriaville et il fut le premier entraîneur de l'histoire de cette concession qui est le Phoenix de Sherbrooke. Et depuis 3 ans, il est entraîneur des Aigles Bleus de l'Université de Moncton, dans une ligue où, il va me corriger si je me trompe, mais il a décroché en 2019 le titre d'entraîneur de l'année. D'ailleurs, entraîneur de l'année, c'est un titre qu'il a décroché à plusieurs reprises, peu importe où il est passé. Alors, Jude Vallée, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Ça va bien. Là, vous me parlez de quel endroit?
Là, je suis à Shediac présentement. C'est à peu près à 15 minutes, si on veut, de Moncton. C'est un bel endroit au Nouveau-Brunswick. C'est je suis à 2 minutes de la plage derrière chez nous. Je suis dans un petit chalet sur le bord de l'eau. Puis c'est une des plus belles plages au Canada. Là. Donc, on est très chanceux de où on est présentement, malgré la situation. On essaie d'aller prendre des marches et tout ça là, pour en profiter.
Bien, on va revenir sur la situation tout à l'heure. Alors, un Gaspésien d'origine, ça a besoin de la mer pas trop loin hein, pour être capable de rester en vie, j'imagine.
Exactement, oui. Merci.
Mon deuxième invité, natif de La Chute, est un défenseur au hockey. Il a joué presque tout son hockey junior avec la formation du Phoenix de Sherbrooke, dont il a même été capitaine, avant de compléter son stage junior avec les Islanders de Charlottetown. Il a fait des camps d'entraînement pour des équipes professionnelles, d'abord avec les Flames de Calgary en 2014, mais ça a été un peu particulier, on y reviendra, alors qu'on a détecté à ce moment-là une malformation cardiaque chez lui, le syndrome de Wolff-Parkinson-White, qui l'avait empêché finalement de poursuivre le camp d'entraînement. Il a été repêché par les Canucks de Vancouver à l'âge de 18 ans. Il a également participer au camp d'entraînement des Sabres de Buffalo. Mais depuis quelques années, c'est au niveau universitaire qu'il continue à jouer avec les Stingers de l'Université Concordia, où il a complété ou va compléter un bac en relations humaines. En 2018, il a remporté le trophée Guy Lafleur, remis aux joueurs ayant fait preuve d'excellence tant sur le plan sportif qu'académique. Et il se passait quelque chose dans sa carrière juste avant le confinement. Je crois qu'il venait de signer un contrat avec les Everblades de la Floride, club affilié aux Admirals de Milwaukee. Donc, le club-école du club-école, je crois, des Prédateurs de Nashville. Carl Neal, bonjour.
Salut, salut.
Est-ce que j'ai fait une erreur dans le CV, là?
Non, c'est pas mal très bien fait.
C'est pas mal bon, OK. C'est, le prof a fait ses recherches, en fait. Bien, il suit vos carrières. Hein. Depuis que vous avez croisé mon chemin, moi, j'arrête pas de vous suivre. Et on reviendra sur, juste avant le confinement relié au COVID-19, bon, ben, qu'est-ce qui se passait dans vos vies? Je vais présenter le troisième invité. Troisième invité, il n'y a pas 20 ans, il est tout jeune encore, alors, natif de Stoke en Estrie. C'est un défenseur également qui a connu une brillante carrière dans la Ligue Midget 3 avec les Cantonniers de Magog, avec qui il était capitaine lors de sa dernière saison, en 2018-2019. Cette année-là, il va jouer 6 rencontres avec les Voltigeurs de Drummondville, club qu'il avait repêché l'été précédent. Mais il demeure quand même dans la Ligue de hockey Midget 3A, où il a tout gagné, sauf le dernier trophée par un fil. Je ne veux pas lui rappeler ça, mais il a tout raflé, sauf le tout dernier trophée, la Coupe TELUS. Il a amorcé en 2019 sa vraie première saison à temps plein dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et quelle saison! Saison fabuleuse. Au moment de quitter, il était 4e pointeur de toute la Ligue chez les défenseurs, alors que je vous rappelle que c'est sa première saison. Il avait 51 points, 17 buts, 34 passes en 63 parties. Il a établi le record d'équipe des Voltigeurs de Drummondville pour le plus grand nombre de buts. Pour un défenseur de première année, il a éclipsé un dénommé Dimitri Koulikov, un gars qui a fait la Ligue nationale. Il est un des trois finalistes au trophée Raymond Lagacé qui récompense annuellement la recrue défensive par excellence dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Alors, une saison bien remplie. Jacob Dion, bonjour.
Salut, Janine, ça va bien?
Ça va bien. Messieurs, on va se tutoyer, on va régler ça tout de suite. On n'est pas à Radio-Canada, donc on a le droit de le faire et on ne fera pas croire qu'on ne se connaît pas. Très content de vous avoir ici. D'abord, qu'est-ce qu'on fait lorsque notre vie est consacrée au hockey et là, on ne peut plus jouer au hockey, on ne peut plus être entraîneur au hockey? Je vais commencer avec Jude qui, à Moncton, et toi aussi, je ne sais pas où en était ta saison lorsque le confinement a été imposé. Est-ce que vous aviez complété votre saison universitaire?
Nous, oui, c'était terminé. D'ailleurs, moi, j'étais au championnat canadien, pas avec mon équipe, là, mais j'étais allé voir le championnat canadien qui était à Halifax, près de chez nous. Puis, après la première journée, les deux premiers matchs, vers 11h le soir, on a eu la nouvelle que le tournoi était cancellé. Donc, on était. Moi, j'avais fini la fin de semaine d'avant avec mon équipe. On était éliminé à ce moment-là contre St. Mary's. Donc, nous autres, de notre côté, on était chanceux. Tout était terminé. Sauf que malgré tout ça, le hockey continuait au niveau du junior, à la télé et tout ça. Donc, pour un gars de hockey qui est coupé du hockey, ça devient un petit peu compliqué, là.
Quand on est éliminé, on se consacre à aller regarder des rencontres, à voir si on peut attirer des joueurs chez nous. Est-ce que c'est un peu ça au niveau universitaire?
Oui, exactement. Disons que le draft, si on veut, là, tout ce qu'on fait pour amener des joueurs a été fait. Là. Nous, présentement, on est à parler avec encore deux ou trois joueurs là, parce que, bon, c'est Alex Voyer a signé avec les Blues. Donc, c'est bien pour lui, c'est un petit peu moins bien pour nous.
Parce que vous comptiez, lui, son plan de match, c'était d'aller jouer universitaire s'il ne trouvait pas une entente avec une équipe de la Ligue nationale?
Exactement. Ça devenait son plan B. Puis, présentement, signé, donc on est très heureux pour lui. On laisse toujours la porte ouverte si jamais ça ne fonctionne pas. Mais disons que le recrutement a déjà été fait pas mal. Nous, ce qu'on était à faire, aussitôt que, bon, comme tout entraîneur, quand ta saison finit, le lendemain, bien, c'est la première journée de la prochaine saison. Donc, on est présentement à travailler sur la structure, à travailler sur, travailler sur le système. Bon, maintenant, on peut avoir des vidéos avec la Ligue nationale, les coachs de la Ligue nationale présentement. J'écoute beaucoup de vidéos de conférences des coachs de la Ligue nationale. Donc, on essaie de préparer. On est en train de préparer notre saison pour l'année prochaine. Puis, fait que de ce côté-là, là, c'est au niveau hockey, c'est vraiment ça qui se passe pour nous là, présentement. Là.
Alors, tu as gardé la routine que tu aurais eue pratiquement s'il n'y avait pas eu de confinement. L'exception, c'est que tu ne peux pas voir de match en direct.
Exactement. On est à la maison. On est tout le monde à la maison. Les règles sont les mêmes ici au Nouveau-Brunswick qu'au Québec. Ce qu'on essaie de faire, bon, moi, c'est sûr que ça te donne un petit peu plus de temps pour prendre soin de toi. Donc, prendre soin de soi, fait que j'ai, bon, recommencé l'entraînement, puis des marches à tous les jours. Je me suis fait une cédule qui fait que mes journées passent quand même assez vite, puis je garde un lien aussi avec mon monde, là, les autres entraîneurs, puis mon staff, puis mes joueurs. Donc, on essaie de garder un lien, continuer à essayer de progresser pour améliorer encore les aiglures.
Est-ce que les joueurs complètent leur année d'études à distance actuellement à l'Université de Moncton?
Exactement. C'est le même principe qu'au Québec. Là. Disons que c'est drôle parce que quand ils nous ont dit, ils ont dit aux joueurs, ben, à tous les étudiants, qu'il y aurait bon 2 semaines d'arrêt, puis après ça, ça recommencerait sûrement l'école. Bon, ben, tout le monde est parti pour le Québec. Les joueurs du Québec qui sont ici sont partis pour le Québec, sauf que on sait ce qui est arrivé 2 ou 3 jours plus tard. Ils ont annoncé que bon, l'université se ferait maintenant par en ligne.
Oui.
Donc, ça a été compliqué un petit peu pour nos joueurs qui étaient déjà rendus au Québec, les problèmes pour revenir et tout ça. Ça a causé des petits problèmes, mais là, présentement, tout le monde finit en ligne. Là, donc, il devrait pas avoir de problème pour finir le cours.
OK. Alors, très bon. Vous prévoyez reprendre débuter la saison quand? Parce qu'on est dépendant un peu de la santé publique. Là, c'est pareil au Nouveau-Brunswick, tu l'as mentionné. Théoriquement, ça débute quand?
Théoriquement, ça débute, nous, à fin août. On n'a pas le droit d'embarquer sur la glace avant le 4 septembre. Des ligues, notre ligue, c'est les règles au niveau de notre ligue.
OK.
Donc, on est à faire les suivis des joueurs par rapport aux entraînements pendant l'été, puis à travailler, comme je vous disais, là, à améliorer notre structure au niveau de l'organisation, puis au niveau de l'environnement aussi, parce que bon, on a refait en neuf là, les 3 dernières années beaucoup ce qui s'est passé dans notre chambre, au niveau du gym et tout ça. Donc, pour nous, c'est un travail continuel. On espère que ça va partir dans les temps prévus. Mais avec ce qui se passe, nous, de notre côté, au niveau de notre ligue, au niveau du sport, on n'a pas eu nécessairement de nouvelles encore, de dire que ça serait repoussé. Ou je pense qu'ils attendent un petit peu savoir ce qui va se passer avec toute la situation. C'est un petit peu le même principe, je pense, pour toutes les ligues, là, que ce soit le junior ou le professionnel. Ça va
être on est dans l'attente. Je cède la parole à un joueur, Jude, qui a joué pour toi, en fait. Étais-tu encore là quand il a été capitaine du Phoenix de Sherbrooke?
Oui, monsieur, c'est moi qui l'ai nommé.
Oh, OK. Alors, bon, ben la relation doit être bonne. On va le dire comme ça. Je vois de grands sourires. Hey, les gars, vous avez appris à sourire. Là, le coach en communication est vraiment fier. Alors, Carl Neal, quand j'ai regardé ton parcours, puis on s'était parlé avant les fêtes même, mais à ce moment-là, tu n'avais pas signé d'entente avec une équipe affiliée à une équipe de la Ligue américaine. Là, je me disais, c'est comme si le gars avait eu un morceau de gâteau dans la bouche, puis on lui a enlevé juste avant qu'il puisse mordre dedans. Qu'est-ce qui arrive avec ce contrat avec les Everblades de la Floride?
Ben, dans le fond, j'avais juste signé comme 5 games avec eux autres.
Essai.
Ouais, pour comme négocier après avec Milwaukee ou eux autres, dépendamment comment les 5 games seraient allés. Fait que c'est ça. Moi, je suis descendu là-bas, c'était le mercredi. Resté à l'hôtel, puis j'ai rejoint l'équipe le jeudi sur la route en Caroline du Sud. Puis là, fait la pratique du matin. Puis là, quand on s'est réveillé de notre sieste d'après-midi, la ligue était cancellée. Fait que j'ai retourné en Floride, puis j'ai retourné à Montréal après. Donc c'est...
Et t'as même pas mis un patin sur la glace pour une partie, là?
Ouais, c'est ça. Une pratique, puis un morning skate, puis c'était terminé.
Alors, est-ce qu'il y a des trous dans les murs de la chambre d'hôtel? C'est ça que je me pose comme question.
Non, tu sais, c'est sûr que c'était une drôle de situation. Tu essaies de prendre ça avec un peu de sens du mot aussi, tu sais, mais c'était un peu frustrant, mais tout le monde dans le même bateau là-dessus, fait que c'était pas trop, trop tough à digérer, là.
Qu'est-ce qu'on t'a dit? Évidemment, on t'a dit, bon, ben là, ça fonctionnera pas, mais est-ce que chez les Everblades, on compte te rappeler lorsque ça va recommencer? Est-ce que cette entente-là, même si c'est seulement pour 5 matchs, un essai, est-ce qu'on va renouveler ça?
Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de temps avant que la saison recommence. T'sais. On n'a aucune idée encore de qu'est-ce qui va se passer, même si on va avoir du hockey. Fait que je pense que pour le moment, il n'y a pas vraiment beaucoup de pourparlers ou rien de même qui se passe. Là, c'est... On attend plus de voir si il y a des camps au mois de septembre, même des camps des recrues, camps de développement au mois de juillet, je pense, pas mal tout cancelé. Oui.
Dans ton cas, est-ce que ton séjour avec les Stingers de Concordia était terminé? Est-ce que tu as complété tes études à Concordia?
Oui, il me restait, dans le fond, 2 cours à terminer cet été en ligne. Après ça, j'avais fini, puis j'ai tout arrangé avec mes profs avant de partir, donc c'était pas mal tout fait.
Et là, tu les complètes actuellement?
Oui, exactement. Dans le fond, comme je disais à Moncton, nous autres, c'est tout en ligne. Puis, je sais, pas mal tous les profs, ils ont changé tous les modes de test, mettons, à vérifier online, des choses comme ça. Donc, tout est rendu par ordinateur.
Je sais que tu travaillais également dans le domaine des assurances aussi.
Oui, exact. C'est ça. Là, on travaille de la maison pas mal. Là. On fait des petites heures, comme 3-4 heures par jour. Puis moi, je suis en Estrie pendant mon confinement. Là. Je suis à Magog, donc j'ai tout déménagé ici chez ma blonde. Puis...
Ah, OK. Là, je cherchais l'erreur parce que t'es pas un gars de l'Estrie, t'es originaire de la Chute, mais je savais qu'il y avait une fille en arrière de ça, là, quelque part. Ouais.
Non, c'est ça. Moi, mes parents étaient à Boisbriand, puis mon appartement était à NDG. Fait que c'est comme les deux pays spots au Québec. Fait que j'ai dit, je pense que je serais mieux d'aller à Magog, avoir profité du plein air et tout ça.
OK. Alors, tu passes quelques heures par jour à travailler, tu es en télétravail. Ta conjointe fait quoi actuellement?
Elle est encore aux études à Concordia. Fait qu'elle aussi a fini son diplôme de biologie. Puis après ça, elle va avoir... Je pense qu'il reste une session.
Parfait. Jacob Dion, notre plus jeune, et j'avais l'image du morceau de gâteau là, pour Carl, mais c'est un peu pareil pour toi parce que tu avais les Voltigeurs de Drummondville allaient bien cette année. Évidemment, un peu dans l'ombre du Phoenix qui a tout raflé, qui était la meilleure équipe au Canada. Mais dans ton cas, tu avais une saison de rêve. L'entraîneur Hartley te faisait grandement confiance, même si tu étais un défenseur recru. Tu as éclipsé un record. Tu as été joueur du mois, je pense, à une ou deux reprises. Et là, tout s'arrête du jour au lendemain. Alors, tu es retourné chez vous à Stoke, en fait, à la maison familiale.
Oui, exactement. Je suis revenu à Stoke. J'ai pas eu à faire tant de route que ça. Écoute, je suis chanceux que la maison est quand même proche de Drummondville, mais ouais, je suis revenu à Stoke en compagnie de ma famille, mais on se comporte bien, fait que c'est plaisant. Là.
Mais là, au moment où ça a arrêté, il restait quelques rencontres à la saison régulière et j'imagine que tous les joueurs regardent le classement en disant qui on va rencontrer en première ronde parce que vous étiez pratiquement assuré de faire les séries dans votre cas.
Oui, on regardait ça quand même gros. Écoute, on n'était pas supposé avoir une saison comme on a connu. Il y a certains spécialistes qui nous étaient derniers dans la ligue. On a montré que finalement, on était une bonne équipe, qu'on a bien travaillé sans pour autant avoir de super vedettes comme certaines équipes pouvaient avoir. Mais c'est sûr qu'on regardait pour les playoffs. On aurait aimé ça pour aller jouer comme n'importe quelle équipe au Québec. Mais avec ce qui s'est passé, on s'est dit qu'on a quand même fait écarter des yeux dans toute la ligue. Puis au moins, on est fier de ça. Là.
C'est vrai, ça a été vraiment une équipe surprise. Puis j'ai une anecdote là-dessus, c'est qu'à un moment donné, je me souviens pas à quelle date, mais tu es venu jouer au Palais des Sports de Sherbrooke. Alors, je suis allé te voir jouer et le Phoenix de Sherbrooke n'avait pas subi une seule défaite en temps régulier à ce moment-là. Et la saison était très avancée. Vous êtes venus les battre. En fait, vous êtes toujours les petits pas fins de Drummondville qui venaient nous faire mal. Et puis Jude va pouvoir peut-être le dire, c'était une grosse rivalité avec Drummondville. Mais là, vous les avez battus. Et moi, j'étais un peu divisé parce que j'applaudissais Jacob Dion. Mais en même temps, je suis un gars de Sherbrooke. Alors là, c'était toute une victoire à ce moment-là parce que première défaite du Phoenix à domicile qui avait une saison de rêve.
On était content de les battre. Bien, surtout moi, en plus, je suis un petit gars de Sherbrooke.
T'as marqué?
Oui, j'ai marqué un peu ce game-là, puis on a réussi à battre la première équipe dans la ligue chez eux qui n'avait pas perdu encore. L'équipe, on était content, mais moi, je pense que je l'étais encore plus que tout le monde.
Oui! Ça paraissait dans le non-verbal aussi, d'ailleurs. Alors, et quand on joue devant sa famille, quand on joue devant une équipe qui aurait dû nous repêcher, mais qui ne l'a pas faite, en fait, alors, message. Mais et j'ai une pensée pour l'organisation du Phoenix de Sherbrooke, qui ont tout misé sur cette saison. Jocelyn Thibault qui a fait de bonnes transactions à la date limite et qui était probablement sur le point de tout rafler, de monter vraiment jusqu'à probablement à la finale, on ne sait jamais, mais qui a tout misé et qui là n'a plus de choix de repêchage ou beaucoup moins de choix de repêchage, mais qui en plus n'aura pas le plaisir de vivre des séries éliminatoires. Puis les gens de Sherbrooke qui ont été tellement patients. Dans le cas de Carl et de Jude, vous avez connu les années excessivement difficiles parce que c'était début d'une concession, c'était pas facile, mais là, enfin, les propriétaires touchaient au but et encore une fois, ben, ils n'auront pas le plaisir de vivre ça. Et je regardais les journaux aujourd'hui, on disait dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, évidemment, on ne le sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer parce que est-ce qu'on va recommencer en septembre ou en janvier? Et là, janvier commence à être un scénario qui circule parce que les activités où on va déplacer énormément de gens, c'est pas ça qui va revenir en premier là, dans notre vie courante, au hockey universitaire, Jude, d'abord, comment vous voyez ça? Aviez-vous beaucoup de spectateurs à vos rencontres habituellement?
Ben nous, là, cette année, ça jouait entre 600, 8, 7, 6, 7, 8, 900 tout le temps. Là. Ça,
oh, quand même!
Quand même des bonnes foules. Là. Mais, tu sais, c'est sûr que nous, je ne sais pas de quelle façon, c'est sûr que le hockey universitaire est moins un petit peu business que le hockey junior peut être. Mais juste pour revenir sur Sherbrooke, si je peux me permettre pour le Phoenix, oui. Que je connais bien. Moi, tantôt, tu disais qu'ils ont tout mis pour pouvoir avoir une bonne formation. Je pense qu'ils vont être très bons encore l'année prochaine. Si on compare avec Moncton, si on compare avec l'équipe de Chicoutimi, qui, eux, ont une équipe complètement détruite, là, va être en reconstruction totale. Sherbrooke va être une très bonne équipe encore l'année prochaine. Donc, je pense que Jocelyn a fait un job incroyable de ce côté-là pour pouvoir avoir une continuité. Là. Donc, c'est pas perdu. Je pense peut-être que le chemin va être un petit peu plus dur parce que les sections vont être plus difficiles l'année prochaine. Mais ça reste que c'est encore un club qui est très, très bien préparé. Et en passant, je veux féliciter aussi Stéphane Julien. Je pense qu'avec son staff, là, JC, puis je pense qu'ils ont fait un travail incroyable. Je suis convaincu. Je pense qu'ils méritent amplement que Stéphane va avoir l'entraîneur de l'année aussi. J'y souhaite en tout cas parce qu'il a fait vraiment, vraiment un bon travail.
On dirait qu'ils sont quand même sous-évalués parce que je regardais même Jocelyn Thibault comme directeur gérant. Tu sais, ça devrait aller de soi, mais on dirait que beaucoup de gens ne les voient pas comme directeur gérant de l'année ou entraîneur de l'année. Je n'ai aucune idée pourquoi. Une chose est certaine, c'est que Jocelyn Thibault, au-delà d'être un directeur général, c'est un propriétaire. Et un propriétaire qui n'a jamais fait un sou de profit depuis le début de la concession. Là. Il ne dira pas publiquement, mais moi, je le sais, puis il y a une équipe de propriétaires. Et là, ce qui était agréable, c'est qu'on allait à des rencontres puis il disait « Aujourd'hui, on vient de battre un autre record. » Record d'assistance à chaque rencontre. Parce que là, les gens ont toujours supporté le Phoenix, mais les supportaient encore plus. On était dans une vague, dans une frénésie pas possible. Puis on se voyait déjà faire des barbecues dans le stationnement du Palais des Sports pour les séries. Enfin, on allait toucher aux séries. Carl, est-ce que tu suis un peu le comme tu es maintenant à Magog, est-ce que tu suivais un peu le parcours du Phoenix de Sherbrooke cette année?
Ouais, depuis que moi je suis parti, je fais toujours le Phoenix à toutes les années. Puis c'est sûr que cette année, j'étais quand même excité d'aller voir des games puis voir les games de playoffs et tout ça, là, mais je peux même pas croire comment que les gars ils sentent comme Jacob puis tous les gars juniors que c'est eux, leur parcours. Il n'y a pas beaucoup de juniors, ça passe vite. Fait que c'est sûr que tu as la chance, surtout pour les 20 ans, de comme voyer puis les gars de même, tu te sens mal pour eux autres, tu sais que ça finit comme ça, mais. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Là.
Ben oui, j'étais très content de voir que le jeune Voyer a signé une entente parce que c'est un gars qui a vraiment un beau parcours, un gars qui a du cœur à l'ouvrage. Mais, et le Phoenix, qui est une organisation qui avait beaucoup de classe. Moi, je me souviens, les 20 ans recevaient un cadeau, était bon, avait droit au tapis rouge à la fin du dernier match de leur dernière saison. Mais là, ils allaient connaître des séries. Puis les joueurs de hockey, vous êtes là, la saison régulière, c'est bien beau, mais vous êtes là pour les séries, même le personnel d'entraîneur aussi. Alors, dans votre cas, ça aurait été agréable. Jacob, ben, tu vas connaître une autre saison, c'est sûr, parce qu'elle va recommencer un jour. Là, la prochaine saison elle va avoir lieu. On ne sait pas encore à quelle date. Mais toi, il te resterait une ou deux années junior?
Oui, il me resterait peut-être mes 19 et mes 20 ans après. Là.
OK. Comment tu as trouvé ta première saison? Difficile de dire que tu n'as pas aimé ça?
Ouais, c'était vraiment le fun de pouvoir opter pour vrai au junior. Tu l'as mentionné tantôt, j'ai fait quelques games la saison précédente, mais là, j'ai réussi à avoir une saison presque complète là, avec la fin de la saison. Mais j'ai vraiment aimé ça. Le junior, c'est différent du midget, mais je trouve que c'est encore plus le fun. C'est complètement différent, mais pouvoir goûter à du hockey comme ça, c'est avec le calibre de jeu qu'on avait. En début de saison, ça a été bien. Je me suis amélioré tout au long de la saison. J'ai réussi à m'améliorer dans cette ligue-là pour montrer que j'étais capable de jouer et d'être un bon joueur de cette ligue-là. Alors, j'ai vraiment adoré mon parcours, mais je pense que ça a juste commencé.
Ben oui, alors il faut le voir de cette façon-là. Maintenant, les gars, je veux qu'on parle de comment on joue quand on n'a pas la rondelle. On va le dire comme ça présentement, parce que là, vous jouez pas, vous êtes inactif et vous ne pouvez pas arrêter. Je lisais sur les réseaux sociaux des publications qui disaient remettez vos jeans, là, parce que les culottes de jogging, c'est traître à un moment donné sur la ligne. Il y en a qui vont se rendre compte qu'à la fin du confinement, ils vont avoir pris pas mal de poids. Jude, comme entraîneur, comment on motive ces joueurs? Parce que tu gardes le contact avec eux. Eux, ils avaient terminé de toute façon, mais ils doivent se présenter en bonne forme au camp d'entraînement, peu importe à quelle date ça va avoir lieu.
Nous, là, nous, présentement, il y a deux situations. De un, on a eu une bonne fin de saison cette année. Il y a eu une belle progression. Moi, depuis les 3 ans, là, cette année, on a comme vraiment monté d'un niveau encore. Puis, en tant qu'organisation, de la façon qu'on a fini, de la façon que les gars on se sont présentés, de la façon qu'on a travaillé, ce qu'on a dégagé aussi comme organisation, a fait que tout le monde est motivé pour l'année prochaine. De l'autre côté, notre recrutement était bon cette année. Donc, ça motive les gars qui restent. Fait que pour moi, là, ça n'a pas été compliqué. Même dans le confinement, les gars m'ont contacté. Je dirais, je pense que tout le monde m'a contacté là, pour savoir, on peut-tu aller chercher des poids à l'aréna? On peut-tu, je pense que tout le monde est déjà à la tâche. Parce que okay. Nous, la façon qu'on fonctionne, je ne sais pas si Carl c'était de la même façon, mais moi, quand la saison finissait, je donnais 2 semaines à mes joueurs, puis après, on recommençait l'entraînement. Ça devient un été qui est quand même long, mais le hockey universitaire, même si ce n'est pas beaucoup de matchs, est très, très intense. Quand on rentre les études avec ça, faut être quand même en très bonne forme. C'est une ligue d'hommes. Donc, mais de mon côté, les gars sont pas durs à motiver présentement. Là. Il y a vraiment une bonne vibe, là, une bonne vibration. Puis, ça se passe très bien. Même tout le monde est à la tâche présentement.
Bien, toi, tu l'as dit, je faisais une revue de presse sur toi, puis maintenant, tu coaches des adultes. C'est ça, la situation. Puis c'est d'un calibre, c'est un gros calibre. Le hockey universitaire, on a tendance à sous-estimer ça, mais c'est un bon calibre de jeu.
Moi, j'inviterais les gens à aller voir. Tu sais, il y a des équipes proches. Je parle de Trois-Rivières. On pense à Concordia avec l'Université McGill aussi. C'est toute la majorité des gars qui ont joué junior majeur, mais qui sont plus vieux. Donc, le calibre de jeu est vraiment intéressant. Tu sais, nous, dans notre ligue, on a des équipes comme UNB qui ont 8 championnats canadiens dans les 10 dernières années, là, qui ont eu la chance même de battre des clubs de la Ligue américaine à travers les 10 dernières années. Donc, le calibre est très, très élevé. C'est des hommes, c'est des gars de 21. Cette année, j'avais un gars de 27 ans dans mon équipe. Donc, c'est complètement différent. La game reste la game, mais la gérer, c'est complètement différent. Puis moi, j'avais eu la chance de travailler avec des étudiants avec les Cougars du Collège Champlain. Donc, revenir dans mes vieilles pantoufles de ce côté-là, on travaille avec des jeunes plus matures. Les discussions ne sont pas les mêmes. La relation n'est pas la même non plus. Puis, c'est tellement intense, Carl peut le dire aussi, c'est 30 matchs. Donc, quand tu embarques sur la glace, tu as hâte de jouer, tu as faim. Tu as faim de gagner, tu as faim de jouer des matchs.
Parce que tu n'as pas deux matchs par semaine, parfois pas du tout?
C'est la majorité du temps, 2 matchs par semaine, mais la saison commence plus tard un petit peu. Puis, on a un bon break à Noël aussi. Donc, c'est vraiment fait pour les étudiants. C'est bien fait de ce côté-là. Mais ça reste que c'est quand même intense parce que même les matchs hors concours, moi, je me souviens, mon premier match hors concours, j'ai fait « wow ». Si c'est ça le pace, là, la vitesse et tout ça, l'intensité pendant les matchs, ça va être une belle ligue. Puis effectivement, c'est toujours à fond. Là.
Quand je regarde ton parcours, je disais d'entrée de jeu que j'ai compris quand je t'ai rencontré pourquoi tu es un entraîneur. Parce qu'il y a 2 mots, moi, qui me viennent à l'esprit quand je pense à toi, c'est adaptation et enseignement. Adaptation parce que tu as vraiment été à tous les niveaux de hockey. Et enseignement, parce que j'avais été vraiment, pas surpris, mais j'ai découvert à quel point tu étais un bon pédagogue. Lorsque tu es venu suivre la formation, d'abord sur l'art de prendre la parole en public chez nous, ça prenait énormément d'humilité pour dire « moi, je suis l'entraîneur du Phoenix de Sherbrooke, je vais aller suivre une formation avec mes joueurs », parce qu'il y avait 3 joueurs dans ce groupe-là. Et oui. Là, tu étais au même niveau que tes joueurs. Le directeur-gérant était là également. Il y avait la directrice des opérations. Mais quand tu faisais des exposés oraux, peu importe de quoi tu parlais, tu avais cette capacité pédagogique vraiment de pouvoir transmettre l'information pour la rendre intéressante. Et ça, j'imagine que ça te sert beaucoup au niveau universitaire aussi, là.
Oui, bien, je te remercie premièrement. C'est gentil ce que tu viens de dire. Écoute, en tant que personne, moi, j'ai toujours voulu m'entraîner, m'améliorer comme entraîneur. Puis, tu sais, quand ça a terminé avec le Phoenix de Sherbrooke, je voulais continuer dans le hockey, c'est sûr et certain. Tu sais, c'est quelque chose qui me passionne. Puis, je me souviens d'avoir été travailler avec Jacob au niveau du midget espoir. Fait que pour moi, là, comment je dirais? on a beaucoup de choses à améliorer. C'est un job, des fois, que les gens vont penser que, bon, on embarque sur la glace et on s'amuse, là, mais il y a beaucoup de psychologie, grand frère, t'es père, t'es quasiment mère à un moment donné, t'es quasiment agent aussi. Tu as beaucoup de chapeaux à avoir. Puis ça, là, c'est vraiment les relations humaines. C'est tellement difficile d'être à l'affût de tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les générations changent. Puis, écoute, l'adaptation, il faut que tu la fasses. Sinon, si tu ne la fais pas, tu vas partir. Donc, c'est une nouvelle génération. C'est une belle génération. C'est complètement différent de comme c'était avant. J'ai été un coach un peu, ils vont dire, très intense.
Un peu plus mordant, on va le dire.
Oh, oui, exactement. Mais il faut s'assagir avec le temps. Puis, il faut garder une drive quand même, mais la changer. Et moi, ça me passionne. T'sais, je lis beaucoup. On avait parlé là, déjà dans le cours. Je lis encore beaucoup de livres sur le cheminement personnel, puis la motivation. Puis, puis là, j'ai plus de temps pour lire, donc c'est intéressant. Et j'essaie de m'améliorer. Puis je suis bien entouré ici. J'ai vraiment un groupe de personnes vraiment incroyables, des gens qui ont beaucoup de vécu. Puis je me suis fait un réseau de mentorat. Puis j'en avais un à Sherbrooke. Je me promenais beaucoup à travers ça. Puis j'en ai un ici aussi. Je n'hésite pas. Toutes les semaines, j'ai quelqu'un à rencontrer. Même encore, je le fais par téléphone, je le fais par vidéo. Mais c'est important pour moi. C'est ça qui me nourrit. Parce que comme entraîneur, on n'a pas beaucoup de tapes dans le dos. Là. C'est souvent, c'est pas assez.
C'est toi qui dois donner des tapes dans le dos, mais toi, tu n'en reçois pas vraiment.
Ben exactement. Ça devient difficile comme entraîneur. Fait qu'il faut aller chercher une motivation. Fait que moi, je passe beaucoup de temps sur YouTube à chercher, aller chercher des vidéos de motivation, des speeches, des gars qui vont m'inspirer.
Et ça sert à tes joueurs parce que c'est le genre de choses que je t'aime apprendre, t'aime le transmettre également. C'est ça, un pédagogue. Là.
Exactement.
Carl, là, mi-vingtaine ou presque, t'es rendu à quel âge, Carl?
23
ans. Oh mon Dieu, ils sont tout jeunes encore. Là, être confiné avec sa blonde à 23 ans. On a-tu la tête à l'entraînement dans ce temps-là? On fait quoi pour se garder en forme? Parce que toi, ton rêve de jouer professionnel au hockey, tu n'y as pas renoncé. Et il y a des joueurs, on a de beaux exemples de joueurs qui ont commencé sur le tard professionnel dans la Ligue américaine, sont restés là longtemps et finalement ont réussi à un moment donné à graduer. Alors, j'imagine qu'il faut se garder en forme physiquement, mais aussi mentalement.
Oui, c'est ça. Je pense que tu l'as bien dit. Là, c'est plus garder en forme physiquement et mentalement. Le mental est un peu plus tough de ce temps-ci. Là. Mais non, c'est sûr qu'avec tout le monde dans le même bateau, je pense que moi, c'est même quelque chose de motif, parce que je sais que tous mes amis, ma famille sont dans la même place que moi aussi. Puis, tu sais, côté hockey, ça ramène tout le monde pas mal sur le même niveau. T'sais. Ça va être juste qui va être le mieux préparé, mais quel hockey recommence. Fait que pour moi, c'est vraiment d'essayer de rester sur la tâche. Je suis en communication constante avec mon nutritionniste aussi pour être sûr que je mange les bonnes affaires pour pas que, comme tu disais tantôt, que faut que je mette des jogging en sortant. Là. Fait que, fait que j'essaie de me garder en bonne forme. Puis c'est ça. Puis ouais, je me suis poussé à la barbe. Là. Je pense pas que ça va toffer jusqu'à la fin. Mais...
Ah oui, mais on peut se faire croire qu'on est en série. On a une barbe des séries là, à ce temps-là.
Oui, c'est ça. Mais en tout cas, elle n'est pas très sharp. Fait que je pense qu'elle va partir après le confinement.
Mais tu as toujours été un gars quand même positif. Au moment où tu as suivi ma formation bon, en communication, tu étais dans le même groupe que Jude. Mais vous aviez eu une saison catastrophique là, cette année-là. Mais tu sais, c'était pas une surprise. Et tu n'avais pas eu, on va le dire, tu n'avais pas eu une bonne saison. Mais l'année suivante, tu as rebondi vraiment. Puis c'est là que des équipes de la Ligue nationale se sont intéressées à toi, les Canucks de Vancouver, entre autres. Mais moi, je peux parler de Carl Neal, le compétiteur. Et quand on est un athlète, peu importe ce qu'on fait, on a cette rigueur. Puis à un moment donné, bon, t'es un anglais, ta langue maternelle, c'est l'anglais. Donc le français, tu parles très bien français, mais c'était pas naturel. Ça vient pas, ça venait pas aussi facilement. Et je me rappelle d'un exposé oral où ça avait pas bien été parce que c'était pas préparé. Et là, le coach se gêne pas pour dire, ben là, t'étais pas prêt. Et là, j'ai vu le feu dans les yeux qu'on voit chez un joueur qui vient de se faire passer par un attaquant là, qui est moins un dans sa partie. Quand tu es venu la semaine suivante, l'exposé oral était parfait, c'était préparé, ça avait été répété, ça paraissait. Et c'est ce que j'aime de travailler avec des joueurs de hockey ou d'autres athlètes, c'est qu'ils ont une rigueur, peu importe ce qu'ils font dans la vie. Là. Ils apprennent à faire à manger, après ils suivent un cours en communication, ils ont ce souci de l'entraînement. Et toi, tu l'avais vraiment, ça.
Oui, merci. C'est sûr, comme tu disais, quand j'étais plus jeune, comme 16-17, ça m'a pris un peu de temps, je pense, pour maturer puis comprendre ma réalité à moi, tu sais, que c'est la forme physique être intense dans tous les aspects, même comme tu dis, en cours de communication, je me rappelle, ça, des fois, c'était tough à passer à travers, mais c'était vraiment le fun avec vous autres, fait que j'ai réussi, mais ouais, c'est ça, c'était vraiment juste, je pense, de maturer comme gars quand j'étais plus jeune, puis le reste a suivi, là.
Bien, je repense à ça parce qu'il y avait 3 joueurs et 3 membres de l'organisation. Puis, tu sais, ça aide aussi à créer des liens parce que les joueurs se voient, mais à un moment donné, tu ne vois pas toujours le directeur gérant, la directrice des opérations. Et là, vous aviez appris à vous connaître peut-être dans un autre contexte. Puis je veux saluer Jonathan Deschamps, je crois qu'il était le capitaine à ce moment-là. C'était son anniversaire cette semaine. Alors, vous voyez, je les suis, là. Je continue de les suivre. Et puis lui, qui était vraiment très drôle également. Mais vous étiez tous des jeunes. Pas facile, là. Tu sais, vous avez maturé ensemble. Puis dans la défaite, on apprend dans la victoire, mais on apprend encore plus dans des épreuves et dans la défaite. Donc, ça avait été un beau passage. Puis tu m'avais mentionné que l'aspect communication pour passer des entrevues après, en vue du repêchage, bien, ça aussi, ça s'était amélioré parce que là, on est capable de mieux se vendre à ce moment-là.
Oui, c'est sûr que nous, quand on a commencé, on était un peu gênés, on va dire. Là. Je pense que c'était moi, je me rappelle Joe Deschamps puis Dan Audette, je crois.
Oui, c'est ça.
Avec Gilles Pipap. Puis au début, on était un peu gênés, on était un peu stressés. On était comme tabarouette avec le coach puis le DG, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire puis tout. Mais tu sais, quand on a appris à se connaître, puis que, honnêtement, c'était, pour nous autres, c'était vraiment quelque chose qu'on a vraiment apprécié. Puis on est vraiment reconnaissant envers Gilles Pipap puis l'organisation nous avoir permis de faire ça parce que, comme tu disais, des entrevues après, tu as plus d'outils que tu peux utiliser. Tu es plus à l'aise quand ça vient ton tour de parler, tout ça. Fait pour nous autres, c'était vraiment quelque chose qui nous a... En tout cas, pour moi, ça m'a vraiment aidé, puis je suis sûr pour les autres aussi.
Bien, tu as mentionné également que tu as remporté le trophée Guy Lafleur, et ça, il y a des entrevues reliées à ça. Avant de décerner le trophée, on passe les joueurs en entrevue. Tu as mentionné que l'aspect communication, ça avait été important aussi pour ta sélection, là.
Oui, c'est ça. Je pense vraiment que côté entrevue, puis surtout pour ce trophée-là, ça m'a vraiment aidé, là. En anglais, j'ai toujours été plus à l'aise de parler. Puis quand je rentrais en entrevue, des fois en français, je cherchais mes mots, des choses comme ça. Fait que quand j'ai rentré dans la salle puis qu'ils m'ont dit que ça allait être en français puis en anglais, j'ai un peu plus confiance, sachant que j'ai fait ton cours puis que j'avais un peu plus d'outils. Fait que ça m'a vraiment aidé. Puis sans toi, je ne sais pas si j'aurais gagné le trophée. Fait que,
non, non, ben non. Ça, bon, ben d'abord, je l'attends, puis later, j'attends le trophée chez Communication Jean-Marlot. Non, mais ça, le vrai salaire d'un coach, c'est ça. Puis Jude pourrait le dire aussi, quand un de nos anciens joueurs décroche, atteint une performance et que, bon, il va nous nommer. Puis, tu sais, j'ai vu mon nom dans une entrevue que tu avais donné à un blogueur à un moment donné après ta sélection par Vancouver en disant « L'aspect communication m'a aidé. J'étais moins intimidé par les journalistes. » Parce que maintenant, très jeune, vous êtes appelé à donner des entrevues. Ça n'a pas toujours été comme ça, là, tu sais. Maintenant, il y a des blogueurs, vous passez sur le web et ça n'a pas toujours été le cas, en fait. Alors ça, vous êtes une génération qui a plus de facilité, mais en même temps, vous êtes très sollicité, là.
Oui, c'est ça. Puis comme tu disais, surtout à 17-18 ans, tu sais, c'est pas évident de rencontrer des équipes de Ligue nationale non plus, puis essayer de te vendre comme personne quand t'es toujours t'es dit de ne pas être trop flamboyant, surtout dans le monde du hockey, d'être humble. Peut-être avec ton programme, c'est vraiment de trouver le bon mix.
Juste milieu. Moi, je peux vous dire qu'à un moment donné, j'avais été... c'est Jocelyn Thibault, un des propriétaires, qui avait parlé de moi parce que lui, quand il a été repêché par les Nordiques de Québec, il était très jeune et il n'était vraiment pas habitué de donner des entrevues, mais rapidement, il est devenu une personnalité. Alors, son agent, qui était Pierre Lacroix, l'avait envoyé avec Alexandre Daigle suivre un coaching en communication avec Pierre Dufault, qui est une référence dans le domaine, là, un très bon coach, un gars de médias. Et lui, il s'était dit, ça m'a permis de parler moins vite, d'être moins nerveux. Puis après ça, ben, après sa carrière professionnelle, il est devenu propriétaire d'une équipe junior, donne des conférences maintenant. Et moi, j'assistais à ses conférences. Comparé au gars de 18 ans qu'il était, c'est le jour et la nuit. Là. Tu sais, c'est un gars qui est sûr de lui, qui est en contrôle. Mais je peux vous dire, pour avoir écouté des entrevues quand il a été repêché, c'était pas ça du tout. Là. Jacob, de ton côté, tu as suivi la formation en communication. On a vraiment sur notre panel de bons joueurs et qui mettent du temps sur les études également. Parce que toi, tu avais gagné une bourse avec les cantonniers. C'était une bourse de joueurs étudiants aussi.
Oui, exactement. Puis j'avais été de voir pour... écoute, fallait que je prépare un petit speech pour la Ligue. Puis j'avais été de voir pour bien préparer ça, pour être un peu sans confiance. Puis ça n'a passé avec le Lake, ça a bien été. J'ai pas gagné, mais en même temps, c'était une expérience. Puis comme Carl le mentionnait, ça me sert encore aujourd'hui. Écoute, quand tu rencontres des équipes, les recruteurs rencontrent tellement des joueurs que si tu peux faire une petite différence, tu peux être un peu différent avec comment tu es sûr, comment tu parles peut-être pas mieux, mais que tu es plus en assurance. Puis je pense que ça peut aider juste hors glace pour rencontrer les recruteurs. Là.
Tu avais gagné un montant d'argent, tu as pris le chèque, tu l'as endossé, et tu t'es payé la formation que tu as suivie en plein été. Alors, on n'a pas tous, tu sais, tout le monde n'est pas aussi gâté que l'organisation du Phoenix qui, elle, avait payé ça. Tu sais, c'est une formation qui vaut au-delà de 1000 $ mais toi, tu t'étais payé ça et tu l'as suivi avec des gens, tu sais, agents immobiliers, des gens, bon, des immigrants qui veulent parfaire leur français. Donc, tu baignais dans des adultes à ce moment-là.
Oui, c'est un milieu que je n'avais pas vraiment touché. Là. C'est du monde d'un peu partout dans la vie, mais ça a été vraiment plaisant. Je pense que ça a été un bon investissement là, avec le 1000 $ que j'avais gagné avec les cantonniers. Mais ouais, c'est en plus comme une expérience. Là, et c'est du monde qui n'avait pas la même réalité que moi. Puis connaître ça, c'est juste un arc de plus.
Comment tu t'entraînes, Jacob, actuellement? Parce que je connais la famille, je sais que maman fait de bons petits plats, tu as une sœur qui travaille dans une pâtisserie également. Hey, ça, ça met à l'épreuve la volonté, là.
Oui, mais j'essaie de pas trop toucher à ce qu'elle fait, sérieusement. Là. Une fois de temps en temps, mais pas plus que ça. Mais je suis chanceux ici, j'ai des bonnes installations pour m'entraîner. Là. Je reçois mon programme d'été. Je pense que c'est l'été, j'ai juste commencé un peu plus tôt. Je fais ce que je pourrais faire mettons, en gym, je le fais à la maison, là.
L'organisation des Voltigeurs vous envoie un programme d'été. Est-ce que vous gardez contact avec l'entraîneur Hartley actuellement?
On a eu, il nous a envoyé des choses à faire, des remerciements et tout pour la saison. Même le trainer de l'équipe, lui qui s'occupe de l'exercice physique, nous envoie des choses. Mais moi, je me suis concentré avec eux qui m'entraînent l'été, fonction optimum à Sherbrooke. Puis ils m'ont déjà envoyé des programmes, des choses à faire. Fait que mon entraînement a déjà commencé, là.
Des camps de hockey, je sais que maintenant, ça n'arrête jamais le hockey. Jude, toi-même, tu donnais des cliniques de hockey. Jacob, Carl, vous en avez suivi. Comment vous voyez ça d'abord, Jacob, cet été? Penses-tu qu'il va y avoir quelque chose ou ça va être au point mort?
Écoute, je pense qu'ils font un gros travail pour essayer d'arranger ce qu'ils pourraient faire. Comme ils nous donnent des programmes, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on va pouvoir aller dans les gyms, aller sur la glace? Je ne sais pas. Pas sûr qu'ils savent vraiment plus pour l'instant. Alors, ils nous ont envoyé des programmes pour le monde qui n'ont pas d'installation juste avec ton corps ou d'autres qui, comme moi, qui ont la chance d'en avoir. Alors, je pense qu'ils font un excellent travail à ce niveau-là. Puis pour la glace, c'est pas facile. Moi, je me suis acheté des patins roues alignées pour essayer de pouvoir patiner un peu quand même, malgré que c'est pas évidemment pareil, mais de pouvoir continuer à garder la forme, même de prendre peut-être un step sur ma condition que j'avais pendant l'année. Je pense que c'est ça que j'essaie de faire présentement. Là.
Parce qu'on a beau s'entraîner, puis on a beau se conditionner mentalement. Je sais, Jacob, que tu es un gars qui fait beaucoup de visualisation, que tu regardes énormément de rencontres. En tout cas, quand tu vas avoir terminé ta carrière de joueur, je ne peux pas concevoir que tu ne seras pas entraîneur parce que toi, tu regardes tellement de matchs pour regarder le jeu d'un et de l'autre. Tu es habitué de le décortiquer. Ça m'avait impressionné. Tu m'avais parlé de visualisation aussi, de te projeter, de te voir. Je sais que c'est plus à la mode maintenant quand on était jeune. Ou quand j'étais jeune, je n'avais jamais entendu ce mot-là. Mais c'est pas pareil que de mettre des patins à glace et de, tu sais, le feeling d'être sur la glace. Mais là, vous ne l'avez pas. Là. Personne ne peut patiner.
Non, mais au moins, tout le monde est égal. Écoute, si on est capable de tout le monde de s'entraîner encore plus, ben je parle de mon équipe, là, j'espère que peut-être pas nécessairement ailleurs dans la ligue, mais si on est capable de tout écoute, s'entraîner comme il faut, de s'améliorer par rapport à la saison dernière, je pense que c'est ça qui va nous aider. Mais écoute, c'est pas comme s'il y en a qui ont plus de chance que nous, tout le monde est à la même égalité. Alors comme ça, avec la visualisation que tu parlais, c'est sûr que c'est pendant la saison, c'est super intéressant. C'est, écoute, mon père m'en avait parlé, ça a commencé à fonctionner, mais pourquoi j'aurais dû faire ça? Écoute, ça va bien à ce niveau-là.
C'est incroyable de faire ça. Je ne sais pas, Jude, que bon, on est dans les mêmes âges, mais tu sais, toute cette condition mentale-là, ce conditionnement, c'est pas quelque chose dont on entendait vraiment parler quand on était, tu sais, on était d'âge secondaire, collégial, etc. Moi, j'en avais pas beaucoup entendu parler. Maintenant, les athlètes, c'est courant.
Je dirais que depuis une quinzaine d'années, peut-être. Moi, je pense que depuis une quinzaine d'années, là, ça a pris une nouvelle tangente. Tu sais, on essaie d'avoir des spécialistes. Regarde la Ligue nationale, là, c'est le plus bel exemple. Ou juste les 77 d'Ottawa avec André Tourigny. Tu sais, ils ont chaque aspect est traité. professionnellement? Tu as des professionnels qui viennent pour le power skating, tu as des gens pour la nutrition, tu as des gens pour l'entraînement, tu as un psychologue sportif, tu as au niveau du médical maintenant accès à une panoplie, que ce soit physio, chiro, ostéo et compagnie. C'est rendu professionnel. Junior majeur, c'est très professionnel. Les équipes universitaires aussi. Puis, tu sais, on est dans une nouvelle ère. Hein. Faut, comme tu l'as dit tantôt, c'est une question d'ajustement. Puis,
vraiment.
Puis, je pense que Carl l'a mentionné tantôt. Tu sais, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est tous sur le même pied. C'est qui va prendre ça le plus sérieusement possible pour essayer d'arriver le plus près. Mais il faut trouver une façon. Même si on dirait, il faut trouver une façon. On est là. On est là devant les faits.
Est-ce que quand les activités vont reprendre, on ne reconnaîtra pas plus facilement ceux qui ont de la rigueur versus finalement ceux qui en ont manqué? Parce que tout le monde est égal actuellement, mais tout le monde ne s'entraîne peut-être pas de la même façon. Et là, on va départager un peu les enfants des hommes ou ceux qui avaient plus la volonté de se tenir en forme aussi.
Ben, si tu veux, à mon avis, moi je pense qu'aujourd'hui, un joueur de hockey, l'entraînement fait partie de la vie d'un joueur de hockey. Si tu n'as pas l'intention ou tu veux prendre du recul, c'est le jeune qui va payer. Je veux dire, tu ne peux plus te permettre aujourd'hui l'entraînement. Là, quand tu parles de jouer au hockey, l'entraînement physique fait partie de ça. Tu ne peux pas passer au côté. Si tu ne t'entraînes pas, tu ne suivras pas. Le hockey est rendu trop vite. Les gens qui s'entraînent avec des gens qui sont compétents. Ils maximisent vraiment le corps physique. Fait qu'une personne qui ne s'entraîne pas, prend du recul, puis finalement, elle va payer pour ça.
Vous allez probablement aborder le début de la prochaine saison de façon différente parce que les joueurs n'auront pas mis de patin ou n'auront pas mis un patin sur la glace pendant des mois, ce qui n'est jamais arrivé. Là, dans notre histoire à nous, c'est jamais arrivé. Alors, j'imagine que tu dois réfléchir à des scénarios sur comment redébuter ça. Les joueurs vont peut-être être en forme, mais ce qu'on appelle la game shape ne sera pas nécessairement là. C'est pas pareil comme jouer.
Ben, côté universitaire, on a des joueurs qui prennent vraiment un long break d'Adlas. Donc, je ne suis pas sûr que ça va faire une différence tant que ça parce que, après une semaine, on va repogner le beat. Il y a tout le temps un beat à construire à chaque début de saison, anyway. T'sais, la majorité des joueurs, bon, il y en a qui mettent beaucoup de temps, mais la majorité des joueurs vont garder une fois ou deux sur Adlas pour juste garder le feeling, comme on dit. Ils passent beaucoup de temps au gymnase pendant l'été. Moi, je ne crois pas que ça va faire une très grosse différence. Je pense que ça va revenir assez rapidement, puis tout le monde va tellement être content.
Oui.
Voir, là, on va vraiment avoir des jeunes, comme on dit, qui ont la bave et qui veulent, là, qui ont hâte d'embarquer parce que souvent pendant l'été, c'est tellement intense aussi qu'on dirait qu'on. Non, aujourd'hui, on est dans un air où on prend conscience de bien des choses.
Oui.
Juste de s'asseoir avec quelqu'un puis prendre un dîner, un souper avec quelqu'un. Waouh, on me semble qu'on va en profiter quand on va avoir la chance. Je pense qu'on prend conscience de la chance qu'on avait. Puis, sûrement qu'on va en profiter beaucoup mais quand ça va revenir à la normale, en tout cas, je pense.
Effectivement, puis c'est la façon positive de le voir. Carl, est-ce que tu as déjà été aussi longtemps sans mettre une paire de patins et mettre un patin sur la glace?
Ça doit faire un bon bout, là, sûrement quand j'étais jeune puis qu'on changeait de hockey à soccer l'été, honnêtement. Là, mais ouais, ça fait différent, mais. Tu sais, c'est notre réalité. Fait que comme Jacob disait, patiner avec des patins à roulettes, des fois, ça peut changer les idées un peu, mais à part de ça, ouais, c'est vraiment long.
C'est ouais, puis ce qui est avantageux quand on fait du patin à roue alignée présentement, c'est qu'il n'y a vraiment personne sur les pistes cyclables. Moi, quand je me lève très tôt le matin, à 5h30, je vais marcher, je fais comme un 6 km, puis il n'y a vraiment personne. Puis, mais je pourrais marcher au milieu de la rue, je pense que je ne me ferais pas frapper. Là, à Sherbrooke, c'est étonnant de voir ça, à quel point. Je suis toujours surpris de voir qu'il n'y a pas tant de gens qui s'entraînent quand même. Toujours étonné de ça. Je suis dans un arrondissement qui est relativement jeune, Rock Forest, puis il me semble que je ne vois pas beaucoup de gens. Alors, en tout cas, on va vous souhaiter, messieurs, que la vie courante reprenne le plus vite possible, que vous soyez entraîneur et vous, les joueurs, parce que c'est un peu votre raison d'être, jouer au hockey. Et là, on vous prive de votre bonbon, en fait. Je vais vous souhaiter que ça reprenne. Carl, tu vas... Je te souhaite vraiment que ça fonctionne avec l'équipe de la Floride. Pas désagréable jouer en Floride non plus. Ça peut fonctionner. Puis après, si on peut intéresser éventuellement une équipe de la Ligue américaine, ben pourquoi pas?
Oui, merci beaucoup.
merci d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir. Jacob, ben, je te souhaite de reprendre une saison, d'amorcer une deuxième saison avec les Voltigeurs de Drummondville, avec encore plus de succès que tu en as eu, vraiment. Je sais que lorsque tu as été repêché, il y a un dépisteur des Voltigeurs qui a insisté pour que le DG fasse une transaction et devance un choix. Je pense que c'est en quatrième ronde, c'est ça?
Oui, exactement. Oui.
Alors, lui a insisté parce qu'il voulait vraiment te repêcher, que tu fasse partie de l'organisation. Mon Dieu, il doit être adulé, ce dépisteur-là, aujourd'hui, parce que ça a été vraiment un de leurs bons coups. Tu as été un des piliers de la brigade défensive qui était déjà quand même forte à Drummondville.
Oui, bien, la saison dernière était extrêmement forte, mais cette année, on a eu beaucoup de jeunes. Il y a eu un joueur, en fait, qui a joué l'année passée dans la GMQ. Mais oui, j'ai essayé de montrer à ce recruteur-là qu'il avait raison. Puis je pense que j'arrête de découvrir, là.
Ben, c'est ça. Alors, mais on te souhaite que ça soit aussi bon lors de la prochaine saison. Jude, t'es encore sous contrat avec l'Université de Moncton. Je pense que t'as vraiment trouvé t'as retrouvé ta place. Avais-tu eu peur après la fin de l'aventure avec le Phoenix? Des fois, on est entre deux chaises, on est entre deux contrats. As-tu pensé à un moment donné que ça ne reviendrait pas?
On y pense tout le temps. C'est une job où notre siège est éjectable. Donc, moi, je me considère chanceux aujourd'hui de vivre ce que je vis. J'ai re-signé pour un contrat de 4 ans. Donc, ça va me faire 7 ans ici. J'espère re-signer encore après parce que c'est une ligue vraiment incroyable. Écoute, on vit au jour le jour. On essaie de s'améliorer tout le temps. Puis, écoute, je tiens à te remercier de l'idée, de l'initiative que tu fais parce que ça me donne la chance de voir Jacob, que ça faisait un petit bout que je n'avais pas vu. Puis d'avoir Carl, bien, c'est sûr qu'on avait tissé des liens ensemble. Là, je suis content aussi de son cheminement à l'E2 parce que c'est deux guerriers, deux personnes incroyables.
Vraiment.
Vraiment, je tiens à te féliciter aussi, toi, parce que tu nous as aidés. Tu aides encore beaucoup de gens. Je pense que tu fais vraiment un bon travail. Puis merci de m'avoir permis de connecter un petit peu avec la région de Sherbrooke. Tu veux pas, j'ai passé 30 ans, je m'ennuie. Je veux pas mes amis et tout ça. Moi, j'espère avoir la chance de revenir cet été parce que nous, on s'est acheté une roulotte au camping Magog Offered. Je passe mes étés en camping maintenant, mais j'espère que ça va ouvrir parce qu'on a comme une petite peur. Peut-être qu'on va être obligé de rester à Chediac, qui n'est pas un mauvais endroit, là, mais...
Il est quand même pire comme confinement. L'air salin, c'est quand même pas mauvais. Là, aussi. Et c'est vrai, je t'avais revu à Sherbrooke. Tu es un gars qui est profondément attaché à Sherbrooke. Puis quand tu peux venir voir une rencontre au Palais des Sports, tu y vas aussi.
Oui, tout à fait. T'sais, je reste accroché. Je suis le Phoenix. Écoute, je comprends ce qui est arrivé. Ça fait partie de la vie d'un entraîneur aussi. Ça a été dur sur le coup, mais j'ai beaucoup de reconnaissance envers la chance qu'ils m'ont donnée. Puis j'adore la ville, j'adore les gens. C'est l'organisation de Sherbrooke. Je savais qu'un jour, ça allait arriver, qu'elle allait gagner. Je suis vraiment content pour eux. C'est vraiment sincère.
Ouais.
En tout cas, je suis encore un Sherbrookeois dans l'ombre, c'est
ça. Et d'ailleurs, je veux saluer Pat Charbonneau, qui était le DG, que je rencontre régulièrement aussi au match, parce qu'il est recruteur maintenant, je crois, pour les Maple Leafs de Toronto. Donc, je le vois constamment à Sherbrooke. C'est très, très agréable aussi. Ça fait partie de la vie, effectivement. Et c'est pas facile de venir entraîneur dans une équipe d'expansion. On sait qu'on va perdre notre travail à un moment donné.
Bien, j'avais entendu à un moment donné, Guy Chouinard disait, à un moment donné, je me souviens qu'il avait été qu'il avait signé avec Sherbrooke dans le temps. Il disait la première journée, c'est le début de la fin.
Oui.
C'est la première journée, tu vois, je jasais avec Carl Mallette, qui est le nouvel entraîneur à Victoriaville. Je disais la même chose, profite, là. Profite de ces bons moments-là. Parce que veux pas, plus ça va tous les jours, ça descend un petit peu. Ça fait partie de la job d'un entraîneur. Tu rêves de rester longtemps. Je pense qu'universitaire, on peut rester un petit peu plus longtemps parce que.
Oui.
Les attentes sont différentes, mais ça reste que on est sur un siège éjectable, comme je disais tantôt, puis il faut vivre avec les conséquences.
Parce qu'à ta première saison universitaire, ça n'a pas été une bonne saison. T'as pris un champ de mine, là. Tu sais, t'as rebâti ça parce que c'était un peu catastrophique, mais tu es devenu l'entraîneur de l'année par la suite. Alors, tu sais, on peut connaître des creux de vague, mais on remonte. Puis je trouve que tu t'inspires beaucoup, ça.
Ben, t'es gentil. C'est très apprécié. J'espère que vous avez tous compris mon langage ce matin parce que je veux pas ici, le langage est un petit peu différent avec l'accent l'accent des Acadiens.
Vraiment, vous avez tous un bon français. Vous avez de beaux sourires. Alors, on enseigne ici à dessiner des bonhommes sourires en haut de la première page. Ouais, il y a juste notre premier ministre qui n'a pas à sourire présentement parce qu'il annonce rarement de bonnes nouvelles. Alors, c'est correct. Mais il trouve toujours la façon, en fait, d'encourager les gens. Et l'aspect communication, ben, elle va être plus importante que jamais pour la suite des choses. Alors, messieurs, encore une fois, merci. Je vous souhaite un bon week-end. Puis, je suis certain que vous allez inspirer beaucoup de gens dans le monde du hockey. Merci beaucoup.